Géopolitique.
Corinne Manjou.
Géopolitique, le débat sur la crise du nucléaire iranien. Nous retrouvons nos invités sur ce plateau. Georges Le Gallt, ancien secrétaire du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Ramin Param, dissident iranien et écrivain. Et au téléphone, notre troisième invité, Ahmed Salamatian, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères en Iran. Nous revenons sur ce débat sur le découplage politique et technique dans le dossier du nucléaire. Et vous aviez la parole, monsieur Param.
Je suis contre ce découplage que voudrait introduire monsieur l'ancien secrétaire d'État. Parce que si vous prenez, à titre d'exemple, les analyses aronniennes de Raymond Aron dans les années 70. Aron, parce qu'il était grand spécialiste connu de ces accords stratégiques, l'un des rares intellectuels et analystes français a tiré la sonnette d'alarme sur la venue des islamistes en Iran. Qu'est-ce qu'il disait, Aron ? Il mettait en garde les Occidentaux. À l'époque, il y avait des discussions stratégiques sur la réduction des armes nucléaires, SALT, et il mettait en garde les Occidentaux contre le découplage que voulaient les Soviétiques entre le dossier politique et le dossier technique. C'est exactement ce que fait aujourd'hui la République islamique, qui a bénéficié du soutien et de l'entraînement, de la formation des Russes pendant 20 ans. C'est exactement la même technique soviétique, découplée entre le technique et le politique. Deuxième découplage que veut introduire monsieur l'ancien sous-secrétaire aux affaires étrangères de Khomeini, c'est dire que tout commence avec Ahmadinejad et qu'avant c'était clair. C'est totalement faux. Tout commence sous le deuxième mandat Khatami. Et le dossier nucléaire commence avec l'envoi de l'amiral Shamkhani sous Rafsanjani au Pakistan pour l'acquisition de la bombe.
Alors, pour ne pas nous perdre dans les dédales de la politique intérieure iranienne, pour nos auditeurs, nous revenons sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, on sait que l'arme nucléaire est à la portée de l'Iran. Comment solutionner cette question ? Est-ce qu'on peut laisser l'Iran continuer ? Comment faire pour arrêter l'Iran aujourd'hui, à votre avis, monsieur Le Gallt ?
Mais écoutez, on avait signé en 1968 un traité qui était le traité de non-prolifération, qui prévoyait justement l'interdiction pour les pays en dehors des cinq, malheureusement, des cinq États dotés d'armes, d'essayer d'acquérir des armes nucléaires, et avec un système de contrôle par l'AIEA et éventuellement de sanctions par le Conseil de sécurité. Ça veut dire que tout, en dernière analyse, dépendait de la volonté, de la capacité de l'ensemble de la communauté internationale d'empêcher la prolifération. Pendant toute la guerre froide, cette interdiction a été garantie par les États-Unis et l'URSS qui ont agi ensemble, bien que sans se concerter.
Et tout a plus ou moins bien fonctionné.
Effectivement, sauf quand l'un des deux ne jouait plus le jeu, qui a permis à Israël, l'Inde et le Pakistan d'avoir leurs armes. Mais cela dit, après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont voulu agir seuls. Ils ont réglé seuls, à leur idée, la question de la Corée du Nord, négociant tout seuls. Négociant avec la Corée du Nord, en échange du gel de leur programme, la construction de deux grands réacteurs dont le financement aurait été assuré par le Japon et la Corée du Sud. Ils se sont retirés de cet accord en 2002 de façon aussi unilatérale et aussi cavalière qu'ils l'avaient signé. Mais les autres pays, à partir de là, ont cessé de considérer qu'ils avaient une responsabilité dans la conduite de ce traité. Et par conséquent, en particulier, la Russie, qui n'a plus à craindre, comme c'était le cas pendant la guerre froide, qui n'a plus à craindre une situation telle que celle de la crise de Cuba, et qui, par conséquent, considère que la prolifération des armes n'est plus pour elle une priorité. Ça veut dire que, pour le moment, au lieu d'avoir l'ensemble de la communauté internationale qui fait pression, il n'y a pratiquement plus personne. Moi, je constate que l'année dernière, en 2010, les 180 pays qui étaient réunis ont passé 4 semaines à ne pas parler des 2 crises en cours, la Corée du Nord et l'Iran. Tout ça parce que, sous la conduite de la France, les 5 États dotés d'armes ont refusé tout ce qui pouvait ressembler à du désarmement. Et du coup, les autres pays ont refusé de parler d'autre chose. Et on s'est séparés au bout de 4 semaines avec un texte dans lequel il n'y a pratiquement rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tentative de régler les questions de prolifération par soit la voie juridique, soit par des négociations a échoué. Maintenant, quand un pays veut acquérir l'arme, il y a 2 solutions. Ou on le laisse faire, ou on le bombarde. Mais on n'a plus la possibilité d'une solution politique. Ça ne marche pas.
Bombarder dans le cas de l'Iran, c'est, y a toujours cette menace israélienne, mais quelles conséquences pour la région ?
Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la région. Je dis simplement, sur le plan du fonctionnement de ce traité de non-prolifération, nous n'avons plus pour le moment de solution juridique. Il reste par conséquent uniquement ça. Ou bien on laisse faire, comme on a fait pour la Corée du Nord, ou bien on bombarde, mais il n'y a plus cette possibilité de solution politique.
Il y a des sanctions aussi, dans le cas de l'Iran, les sanctions jusqu'à présent n'ont pas porté de fruits.
Oui, je pense qu'il y a, il y a une chose dont il faut tenir compte, c'est que depuis le début, depuis le premier assassinat commis sur le territoire américain en 1980, jusqu'à aujourd'hui, toutes les crises iraniennes déclenchées par l'Iran, terroristes ou atomiques, n'ont reçu aucune mesure concrète, multilatérale et ferme de la part des grands pays, pour ne pas dire de la communauté internationale. L'Iran islamique agit dans une totale impunité depuis 32 ans. Donc il faut mettre un terme à ça. Je pense que la guerre, c'est la pire des solutions. Les Israéliens le savent, les Américains le savent. Le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, l'a dit très correctement.
L'Europe
très
le
justement
sait, oui.
Mais il existe d'autres façons de le faire, notamment la sanction. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Chine est le grand pays qui procure à ce qui reste de l'industrie iranienne les pièces détachées et les composantes absolument vitales pour le fonctionnement de cette industrie. Il faut peser sur la Chine pour imposer des sanctions fortement handicapantes vis-à-vis de l'industrie iranienne. Et il faut viser la banque centrale iranienne. Il faut empêcher que l'argent du pétrole finisse dans les caisses de l'État islamiste en Iran. Et in fine, in extremis, je dirais, il faut fermer le détroit d'Hormuz et empêcher l'exportation du pétrole d'un régime islamiste et terroriste dont la nature politique ne peut être comparée avec aucune autre entité de taille comparable dans la région.
Alors, vous parlez de viser la Banque centrale d'Iran, c'est ce que beaucoup préconisent. Et certains observateurs ont tout de même la conviction que les sanctions internationales prises à l'encontre de Téhéran depuis le début commencent à avoir des effets, même si les conséquences économiques sont camouflées par le régime aujourd'hui. Il faut rappeler qu'à ce jour, l'Union européenne a déjà gelé les avoirs de centaines d'entreprises iraniennes et applique depuis juillet 2010 une interdiction de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier et gazier notamment. Monsieur Salamatian, quelles sont les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui pour contraindre Téhéran à stopper sa marche vers le nucléaire ?
On ne pourrait pas isoler le cas iranien de l'ensemble de cohésion internationale. Comme a dit Monsieur Le Guedes, ce qui est terrible dans le non-prolifération et les efforts internationaux pour assurer la non-prolifération, c'est justement des actions unilatérales et des actions qui se sont développées par-ci, par-là, en fonction des intérêts de telle ou telle puissance, et non pas l'ensemble de l'intérêt de la communauté internationale. Si aujourd'hui on veut régler le problème de non-prolifération iranienne, avant tout, il faut essayer par tous les moyens d'arriver à une sorte de consensus au niveau international. Tant qu'il n'y a pas le consensus, le dossier peut devenir même plus dangereux. Si on se base sur les expériences du passé, on voit très bien que chaque fois un adversaire, même l'adversaire le plus abject possible, si on le met devant le choix de la guerre totale où on a les moyens rapidement d'aller à la fin de ce processus, où on déclenche une crise qui devient beaucoup plus dangereuse. Malheureusement, les complexités de la situation iranienne, détroit d'Hormuz, fermé, le pétrole, tout ça, c'est pas des actes aussi faciles que ça dans un monde actuel. Nous voyons très bien que cette région souffre déjà de la guerre d'Afghanistan et de la guerre de l'Irak qui sont en train de s'épuiser, non pas de la manière que ceux qui ont déclenché la guerre l'espéraient. Aujourd'hui, les dimensions du conflit iranien, si on opte pour les moyens de la menace qui peut très bien arriver à une réalité de militarisation de problèmes, pourrait aggraver considérablement cette crise. Je ne suis pas contre les sanctions. Je dis les sanctions, il faut que ce soit des sanctions intelligentes, des sanctions qui ne visent pas la population iranienne qui, dans ce cas-là, il ira dans une certaine manière de solidarité avec son pouvoir. Et je voudrais dire que si on regarde même le dossier nucléaire iranien et son passé parmi pour les négociations, le meilleur moment où le dossier a commencé à avoir un debout de solution, c'était en 2003 quand les ministres des affaires étrangères de trois pays européens sont allés en Iran et ils ont réussi d'arracher le gouvernement réformateur iranien de M. Khatami une suspension de l'enrichissement d'uranium. Malheureusement, cette négociation d'ensemble qui, à ce moment-là, avait les trois puissance européenne. Il n'avait pas malheureusement encore le soutien de la Russie et de la Chine. Mais il y a aujourd'hui des conditions où on peut arriver à ça. Même je vois de temps en temps dans les réactions iraniennes que la position russe récemment qui disait pas à pas pour les négociations, il le rejetait il y a deux semaines. Maintenant, sous la pression, il commence à en parler de nouveau. Il ne faut absolument pas abandonner des négociations internationales de plus en plus dans le sens de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale, rejeter les actions unilatérales, rejeter des menaces qui peuvent aboutir à une certaine forme de militarisation de ce dossier. Il n'y a pas d'acuité plus importante que le dossier du Corée du Nord. C'est un dossier qui, à mon avis, devrait être résolu avec une certaine forme de consensus international.
Alors, nous sommes loin de ce consensus vu la position de la Chine et de la Russie aujourd'hui. Est-ce que l'effondrement du régime de Ahmadinejad pourrait faciliter la solution à ce problème?
Ahmadinejad n'est qu'un pion dans l'échiquier politique iranien.
Mais un pion important. Dans la mesure où il a à plusieurs reprises annoncé son désir de rayer Israël de la carte.
Justement, à un moment donné, le pouvoir iranien dans son ensemble avait besoin d'une certaine manière de provoquer l'adversaire et les vociférations de M. Ahmadinejad a réussi à faire ça. Soyez certains que du côté iranien aussi, il y a des gens qui cherchent par tous les moyens l'affrontement parce qu'ils voient leur survie politique conditionnée par ça. M. Ahmadinejad, d'ici 15 mois, il arriverait à la fin de son mandat.
Mais peut-être là, il aurait déjà la bombe. 15 mois, c'est
non, pas... vous savez, l'essentiel de pouvoir iranien, surtout dans ces domaines, dépend de qui. Les structures de pouvoir iranien est beaucoup plus complexe. Le président de la République n'a aucune autorité sur les problèmes de la défense, bien que nominalement, il préside le Conseil supérieur de la défense. C'est le guide suprême, c'est les organes militaires, c'est les organes idéologiques du régime, la complexité du régime iranien. Et ça, c'est eux qui ont les éléments les plus importants de dossier nucléaire. C'est pourquoi je dirais qu'une certaine forme de focalisation sur M. Ahmadinejad, c'est quelque chose que le pouvoir iranien a cherché. C'est tombé dans son piège. C'est l'État iranien dans son ensemble qui devrait assumer la responsabilité de dossier nucléaire iranien et arriver à une situation où il accepterait d'une manière claire et nette de rendre la confiance à la communauté internationale pour, d'une manière claire, dire qu'il ne vaut pas accéder à l'arme nucléaire. Et ça, il faut des mesures et des moyens pour pouvoir négocier et pour pouvoir obtenir des positions claires et d'une manière générale des garanties suffisantes et solides de l'ensemble de pouvoir iranien. Monsieur Ahmadinejad, c'est quelque chose d'éphémère et de passager sur la scène politique iranienne.
Monsieur Param, votre avis?
Non, pas du tout, parce que monsieur l'ancien secrétaire d'État Khomeini a dit des choses qui ne sont pas vraies. D'abord, ce n'est pas la même situation qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, monsieur, parce que la Corée du Nord, à moins que je me trompe, ne va pas placer des explosifs dans un centre culturel en Argentine. Donc ce n'est pas la même chose. La Corée du Nord n'a pas la même situation géostratégique non plus. La Corée du Nord n'a pas un bras armé au Liban. La Corée du Nord ne tue pas des soldats occidentaux en Afghanistan et en Irak.
Est-ce qu'on parle de dossier du terrorisme ou on parle de dossier nucléaire?
C'est lié, monsieur.
Parfait. Vous n'êtes pas en face du même interlocuteur.
Alors, pour vous, monsieur Param, l'effondrement du régime
L'effondrement du régime, pour moi, c'est la solution. C'est la solution qui pourrait résoudre de la manière la plus rapide, la plus efficace, tout ce dossier. Je le dis et je le répète, il faut comparer. Les choses n'ont absolument aucun sens dans l'absolu. Ce régime a un projet qui nous a déjà coûté 20 milliards de dollars au bas mot sans faire marcher le moindre frigo. Le moindre frigo en Iran. Alors qu'on sait pertinemment que avant ce régime, pendant plus de 20 ans, il y avait un programme nucléaire, que cela se faisait avec des appels d'offres, que nous étions sur le point d'acquérir la meilleure technologie, des meilleures offrandes, dans la plus grande transparence, comme le Japon, qui est le pays le plus inspecté au monde. Lisez le papier très bien fait de M. Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique il y a deux jours. Le Japon, c'est le pays le plus inspecté au monde. Et nous étions exactement dans le même cas. Donc, il faut comparer. Il faut comparer et il faut dire qu'il est possible de faire marcher les frigos iraniens autrement qu'avec des saisines du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensuite, monsieur l'ancien secrétaire d'État de Khomeini a dit que le problème commence avec Ahmadinejad et que nous étions parvenus à des accomplissements absolument majeurs avec le réformateur Khatami. Il y a deux points. Qu'est-ce qu'il a réformé, ce monsieur réformateur Khatami ? Deuxième point, c'est faux ce que vous dites sur le dossier nucléaire. C'est faux et archi-faux. On le sait avec le dernier rapport, il n'y a pas eu de suspension, il y a eu continuation du programme nucléaire. D'ailleurs, Khatami, celui qui faisait les chancelleries occidentales avec son dialogue des civilisations, c'est celui qui a initié la voie chimique de l'enrichissement de l'uranium.
Alors, monsieur Le Gallt, est-ce qu'on peut dire qu'on est là devant une impasse avec le nucléaire iranien, à votre avis ?
Écoutez, moi je n'ai pas la moindre connaissance du régime, de la façon des équilibres de force à l'intérieur du régime iranien. Par conséquent, je n'ai pas d'opinion sur la question. Ce que je crois, c'est que si le gouvernement iranien poursuit, comme il le fait maintenant depuis une dizaine d'années, poursuit son programme dont la seule logique et d'aboutir à fabriquer une arme, je crois qu'on sera effectivement dans une impasse. Ce que je crois malgré tout, et là je vous rejoins tout à fait, ce que je crois malgré tout, c'est que probablement, comme dans tous les pays, il y a pour l'instant au moins deux opinions, si ce n'est plus, des gens qui veulent aller jusqu'au bout tout de suite, et d'autres qui seraient prêts à dire, sans doute, arrêtons-nous quand nous aurons les moyens de fabriquer une arme rapidement, mais sans aller jusqu'à la fabriquer réellement.
Comme certains pays, comme c'est le cas par exemple de l'Afrique du Sud et d'autres.
Alors l'Afrique du Sud a tout abandonné après avoir fabriqué des armes. Non, qu'elle s'arrête quand elle a les techniques et les matériaux. C'est une autre hypothèse. Mais le problème est là de savoir dans quel sens ce rapport de force va permettre de trancher, du côté de ceux qui veulent avoir l'arme tout de suite, ou des autres. Mais sinon, je crois qu'on sera effectivement dans une impasse.
Et si l'épreuve de force prenait un tour violent, quelles seraient les conséquences pour le monde, d'après vous ?
Tout le monde sait, je pense que là-dessus, je pense qu'il y a un consensus, non seulement entre les différents observateurs, mais entre Shimon Peres, le président israélien, même entre Ehud Barak et Netanyahou d'un côté, Monsieur Alain Juppé, notre ministre des Affaires étrangères ici, et d'autres. Tout le monde sait qu'une déflagration militaire en Iran sur le dossier nucléaire, ça va être très difficile à gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut tout mettre en œuvre sans se laisser leurrer par ce qu'on a connu sous Khatami, dialogue des civilisations et autres, et avec une action ferme visant la Banque centrale et d'autres aspects de la chose.
Monsieur Le Gallt ?
Juste un mot, je crois moi aussi qu'effectivement, ce serait le déclenchement d'une catastrophe. Simplement, je ne suis pas sûr qu'il soit écrit quelque part que du moment qu'on sait qu'il y aura une catastrophe, on ne le fera pas.
Ah ça, je suis d'accord avec vous.
Monsieur Salamatian, pour le mot de la fin, vraiment très très courtement.
Je crois que notre monde n'a pas besoin d'un autre conflit de cette importance. Là, je crois qu'en militarisant le problème iranien et en facilitant cette militarisation, on ouvre les portes d'un enfer dont on ne sait pas comment sortir et quand sortir, non pas seulement pour l'Iran, pour l'ensemble de la région et même peut-être pour une grande partie du monde.
Voilà, c'est la fin de Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la crise du nucléaire iranien. Merci à nos invités, Ahmed Salamatian, ancien secrétaire d'État iranien aux affaires étrangères, Ramin Param, écrivain et dissident iranien, et Georges Le Gallt, ancien secrétaire du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI, www.rfi.fr. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique. Demain, l'émission Géopolitique, le débat sera consacrée aux défis de l'humanitaire et vous retrouverez Marie-France Chatin. Merci de votre attention.